Europe 1, 15h-16h,
Samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission où l'on vous propose de visiter la France par des chemins de traverse pour vous donner des idées de sorties et de balades les plus originales possibles. Démonstration dans un instant, par exemple. Avec Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard, nous partirons à Saulieu. Alors, non pas pour parler de l'immense cuisinier Bernard Aloiseau, on le fera une autre fois, ou vous parler d'Alésia, qui est pas loin, hein, pour rendre hommage à François Pompon. Et vous le connaissez pas, d'où l'utilité de cette émission, parce que la ville rend hommage à cet homme avec un musée qui expose ses œuvres. Mais vous allez voir, ses œuvres, vous les connaissez. Et il a commencé au début du siècle dernier. Tout de suite après, une visite d'un site que l'on appelle un site du savoir-faire français, qui, comme son nom l'indique, n'existe pas ailleurs. Direction Bourg-en-Bresse, où il y a une entreprise qui fabrique des émaux, à mi-chemin entre l'orfèvrerie et la bijouterie. Et ça existe depuis des siècles. Et juste après, la visite d'un site de plein air. Alors, là, nous irons dans la région Centre-Val-de-Loire, à la rencontre Benjamin Rabier. Si ça vous dit quelque chose, un dessinateur de génie, auteur de... La célèbre vache qui rit, c'est lui, Benjamin Rabier. Alors en plein air, parce que vous allez voir, il y a là-bas un sentier de plusieurs dizaines de kilomètres qui lui est consacré. On commence avec l'Occitanie, mais un site insolite qui vous offre une exception géologique. Alors ça se trouve où, Monsieur Gavis? Bonjour.
Bonjour William, bonjour à tous. Alors, on va aller en effet dans le Tarn, à l'est de Castres. Cette région est très, très, très originale. Ça s'appelle le Cidobre.
Alors voilà à quoi elle sert cette émission. Parce que moi, je ne savais même pas que ça existait, le Cidobre. Alors, ça s'écrit, ouais. Excusez-moi, mais je sais bien à la radio, puisqu'il nous manque juste les images. Ça s'écrit Sidobre, le Cidobre. Et en quoi elle est insolite, cette région-là?
Eh bien, en fait, nous sommes au cœur d'un territoire, c'est à 650 mètres d'altitude, qui a subi ce territoire, l'érosion géologique sur plusieurs milliers d'années, et qui, aujourd'hui, propose sur une centaine de kilomètres carrés des forêts montagneuses, des petites routes tortueuses, et surtout des curiosités en granit. C'est vraiment pour ça qu'on vient, c'est une exception géologique, non pas en France, mais en Europe même.
Alors, curiosités en granit. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites curiosité, c'est-à-dire?
Eh ben, en fait, vous allez partir dans cette région en randonnée, à pied, à vélo, comme vous voulez. Ouais. Et vous allez vous retrouver nez à nez, si j'ose dire, avec des rochers qui ont des formes complètement extravagantes. Alors, elles ont toutes un petit nom, c'est ça que j'aime bien. Alors, il y en a un qui a une forme d'éléphant. Il y en a une autre qui a, on dirait, une oie, mais démesurée, parce que c'est gigantesque. Ou alors, il y a la Peiroclabado. J'ai pris mon plus bel accent. C'est la plus célèbre concrétion rocheuse du coin. C'est un rocher de 800 tonnes, imaginez, repose. Prenez l'image, un rocher énorme de 800 tonnes qui repose sur 1 mètre carré comme par magie. Oui, on dirait qu'il est posé comme ça.
Il a été posé là, mais c'est pas par la main de l'homme. Hein.
Non, il est là
comme ça, puis il bouge plus.
C'est ça. Et puis nous, on vient juste un petit peu pour le pousser, on fait des photos devant et on s'amuse pendant la balade.
Invraisemblable, parce que le vent, les températures diverses, ça l'a pas érodé ni ça l'a bougé. Hein. 800 tonnes quand même, c'est pas rien.
C'est fou, hein.
N'oubliez pas vos appareils photo quand vous irez là-bas. Pour en savoir plus, nous sommes avec Adrien Musciante, qui est en ligne avec nous, chef du service touriste de la destination, alors Cidobre et Vallée au pluriel. Bonjour Adrien.
Bonjour William, bonjour Gavin et bonjour à vos auditeurs.
Est-ce qu'on sait de quand datent ces rochers? Et on a l'impression qu'ils sont tombés du ciel, hein.
Alors, on a souvent eu cette impression, hein, nos visiteurs, c'est souvent une remarque qui est faite. Mais tout ça, voilà, c'est naturel, c'est de la géologie, hein, ça a été dit. Et ça remonte à une échelle de temps qui est très ancienne. Hein, le début de la formation du granit, c'est à peu près 300 millions d'années. Vous voyez, c'est pas d'hier. Et tout ça s'est formé, par contre, avec, voilà, sur des milliers d'années, l'érosion petit à petit. D'abord, donc, la formation du granit, puis de l'érosion pour avoir, donc, aujourd'hui, les rochers visibles.
D'accord. Alors, on le redit, hein, mais c'est différent des menhirs, parce que l'homme n'est pas intervenu dans leur position ni le lieu où ils sont posés. Hein.
C'est ça. Là, c'est 100% naturel. 99% des curiosités en granit que vous verrez voilà, dans le Cidobre, c'est naturel. Après, on a toujours voilà, quelques sculptures aujourd'hui hein, qui sont visibles sur, au gré des parcours, mais c'est quand même flagrant entre une sculpture et un rocher, entre guillemets, dit naturel. Mm-hmm. Et après, on a aussi quand même des statues menhirs sur, sur le territoire. Ah, donc, ça peut même se trouver. Mais là aussi, c'est flagrant, puisqu'on voit bien quand même l'intervention de l'homme sur une statue menhir par rapport à un rocher naturel.
Et elles sont moins importantes, parce que les menhirs, bon, on pouvait les soulever, ils se mettaient à plusieurs, mais là, pour soulever 800 tonnes, bonne chance, hein. Non, c'est énorme, incroyable.
Oui, oui, oui. Mm.
Alors, il n'y a pas que la Bretagne c'est bien, qui a le monopole des drôles de rochers, finalement. Gavit, ça dit que la région du Cidobre, c'était une exception en Europe. Vous confirmez ?
Tout à fait. Il a raison. C'est plus de 100 km carrés d'un seul et même bloc de granit. Donc ça, des régions de granit en France, il y en a voilà, plusieurs, hein, y a presque partout. La Bretagne fait partie des régions, en effet, voilà, très célèbres pour le granit ou également des rochers. Mm-hmm. Mais un seul et même bloc de 100 km carrés, ça, c'est unique en Europe. Et souvent, je prends pour preuve la production de granit. Hein. Plus de 50% de la production française de granit vient du Cidobre. D'accord. Et pas forcément de Bretagne, comme on imagine.
Ah oui, alors il faudrait quand même nous expliquer. Parce qu'on dit que c'est une île de granit, N-I-T-E. C'est quoi la différence entre le granit T-E et le granit N-I-T ?
Bon, les deux sont bons, donc on ne fera pas d'erreur. Hein. C'est juste que si on met le E, c'est pour parler de la roche mère en elle-même, hein, la roche géologique. Et si on ne met pas le E, c'est quand le granit est travaillé par l'homme.
Ah, d'accord. Eh bien voilà, j'ai appris un truc, j'ai bien fait de venir en Europe. Il y a plusieurs itinéraires de randonnée pour sillonner dans ce lieu et ça permet de découvrir des sites différents.
C'est ça, tout à fait. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur toute la destination, il y a plus de 70 parcours qui vont de 10 minutes à 16 jours. Donc, on a forcément plusieurs parcours qui correspondront à tout type de public, si on veut marcher qu'un peu, beaucoup, entre les deux, tout niveau également, puisqu'il y a un petit peu, des fois, de dénivelé. Oui. Mais il y a vraiment voilà, de tout. Donc, vous êtes sûr de trouver votre bonheur, normalement, si vous aimez la nature et la randonnée dans le Cidobre.
Alors, même, il y en a un ou plusieurs, je ne sais pas. Il y en a un qui s'appelle une rivière de rochers. À quoi ça ressemble, ça, une rivière de rochers?
Alors, une rivière de rochers, en fait, c'est un chaos, ce qu'on appelle dans le Cidobre un chaos. Donc, c'est un amas, en fait, de rochers hein, qui vont tomber après, liés à l'érosion, sur un point, en général, bas du territoire. Et les points les plus bas, bah, souvent, c'est une rivière. Donc, la plupart du temps, au niveau des chaos donc, ou des rivières de rochers, parce qu'il y en a une trentaine dans le Cidobre, des fois, on ne voit même plus la rivière, tellement on a de rochers, en fait, dessus. Ah, on peut juste l'entendre, mais plus la voir. Donc, ça dépend après des parcours.
Elle se glisse entre les rochers, je suppose. L'eau est toujours gagnante, là, dans ces cas-là.
C'est ça, l'eau est en fait est dessous. Le rocher en fait sera posé dessus, la rivière en fait sera vraiment sous les rochers. Et il y a des endroits, donc ce qu'on appelle des balmes, ça forme des sortes de petites grottes où on peut aller en fait sous la rivière de rochers.
Ah oui,
et donc là, voir et l'eau et le rocher. Donc avec prudence quand même, hein, parce qu'il y a des endroits où ça peut glisser. Mais il y a des endroits où on peut passer voilà, sous ces rivières de rochers. Donc c'est forcément très impressionnant parce qu'on va avoir au-dessus de nous au moins une cinquantaine de rochers de plusieurs dizaines de tonnes. Donc forcément, on espère à chaque fois que ça tienne. Mais pour rassurer tout le monde, ils sont là depuis des millions d'années et ils vont toujours tenir.
Voilà, je vous remercie Adrien, parce que franchement c'était la question que j'allais vous poser, parce que quand vous dites qu'il y a un chaos, ben, ça veut dire que certains d'entre eux ont bougé, mais ils ne bougent plus les autres. Hein.
Alors ça ne bouge plus, pour rassurer voilà, tout le monde, les rochers aujourd'hui voilà, ne bougent plus, en tout cas à très court terme. Après l'érosion continue toujours, donc dans des centaines de milliers d'années, il y aura forcément des rochers qui bougeront, qui continueront à s'éroder, mais là il faudra revenir dans très très longtemps pour voir ça.
Oui, bon ben... Très bien, je suis extrêmement rassuré. Pour avoir des idées de randonnée dans le coin, on vient vous voir à l'office du tourisme, c'est plus simple.
C'est ça, on a plusieurs bureaux d'information touristique qui sont ouverts à l'année ou en saison, ça dépend voilà, du lieu où on va. Et après aujourd'hui, grâce à Internet, hein, on tape simplement Cidobre Tourisme et normalement vous avez quasiment toutes les infos pour préparer un séjour sur la destination.
Je suis sûr que parmi les auditeurs d'Europe 1, il y en a beaucoup qui viennent de découvrir, comme moi, cette région du Tarn, la région du Cidobre, grâce à Gavin. C'est à vous, à Adrien Musciantec, vous êtes le chef du service touriste de cette destination. Merci de la petite visite, et puis à bientôt. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Merci.
Merci à vous. Alors, monsieur Gavins, on va donc à la maison du Cidre d'Aube. C'est sur quelle commune, ça ?
C'est sur la commune de Lebèze. Et elle est ouverte toute l'année et vous y trouverez, bah, en effet, toutes les informations sur les randos, les balades dans le coin, comme l'a dit Adrien. Mais il y a aussi les explications sur ces statues exceptionnelles et puis leurs petits noms magiques qui font rêver, comme la Peyroclabado, bien entendu.
La Peyroclabado. Non, mais quand on les regarde, c'est impressionnant parce qu'on ne sait pas sur quoi elles reposent.
Parce c'est que ça, c'est parfois vraiment de la magie.
C'est gigantesque. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais le point d'impact entre le rocher et ce qui est en dessous, c'est tout petit. C'est pour ça qu'on a la
trouille. Imaginer des formes.
Dit, oui, puis il y a des formes rigolotes. Pour faire le plein de gourmandises dans le coin, on peut aller où ?
Eh bien, je vous conseille d'aller à la laiterie Fabre. C'est à Vianne, c'est pas très très loin, c'est sur le territoire du Cidre d'Aube. On est là depuis 3 générations et on fabrique 25 sortes, imaginez, 25 sortes de fromage à base de lait de vache et de chèvre. Alors, niveau lieu insolite, on est pas mal là aussi, parce que l'affinage, ça se fait dans un ancien tunnel ferroviaire. Oh. Ouais, c'est la laiterie Fabre. C'est pas mal, hein, l'ancien tunnel qui sert de lieu d'affinage. On y achète des fromages, bien sûr, mais aussi des yaourts, de la charcuterie maison avec des cochons nourris avec le surplus de lait. Si, je vous jure. C'est la laiterie Fabre à Vianne.
C'est
pas
drôle,
mal. Ça aussi, c'est insolite.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Dans la catégorie site du patrimoine de cette émission samedi en France, on vous propose maintenant, avec Gavins Clémenté-Ruiz, un musée situé à Saulieu, où on présente les œuvres d'un sculpteur original, vraiment, vraiment pas comme les autres. Alors d'abord, il faut expliquer pourquoi cet homme est si différent, Gavins.
Alors d'abord, cet homme, William, il s'appelle François Pompon.
Mais c'est son vrai nom, hein.
Ouais, c'est son vrai nom, P-O-M-P-O-N. C'est un nom qu'on risque pas d'oublier, bien sûr. Et pourtant, si on connaît quelques-unes de ses œuvres, on a peut-être oublié son nom. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est là. Il est né à Saulieu en 1855. Il a étudié les beaux-arts à Dijon. Et il a été, s'il vous plaît, chef d'atelier d'Auguste Rodin, rien que ça. Et il a même travaillé avec Camille Claudel.
Ah, oui. Les deux.
Les deux, carrément, rien que ça. Il a commencé à sculpter pour lui, vraiment, à la fin de sa vie.
Alors, Saulieu lui rend hommage avec ce musée qui présente ses œuvres, je suppose.
Ce sont les œuvres premières qui sont présentées. Ah bon ? Alors, à la base, François Pompon, il a commencé à faire des portraits. C'est au moment où, en 1905, il se met à faire des animaux qu'il commence à avoir le succès. Les portraits, bon, mais c'est vraiment avec l'art animalier qui va exploser.
Un des premiers à faire ça, non ?
C'est ça. Oui. Et c'est l'année dernière qu'on a fêté les 100 ans de son fameux ours polaire. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. C'est une forme très, très arasée, très beau, très pur, très blanc. On le voit maintenant, on peut en acheter des répliques un peu partout. Il y en a même au musée du Louvre, si vous voulez.
Oui, il y en a au musée d'Orsay, il me semble aussi.
Aussi. Une des œuvres est exposée au musée d'Orsay, mais vous pouvez en acheter dans pas mal de sites pour vous faire plaisir, si vous voulez vous faire un petit cadeau.
Bon, alors pour en savoir un peu plus, on appelle Laurence Joigneret, qui est la directrice du musée. Bonjour Laurence.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour. Alors, ce musée existe depuis longtemps, mais à l'origine, c'était pas fait que pour ce cher monsieur Pompon.
Alors c'est vrai, en fait, le musée existe déjà depuis 1928.
Ah oui.
C'est un musée qui a été créé sous l'impulsion du maire de l'époque, qui s'appelait Alfred Guillaume, et qui avait écrit un recueil de textes morvandiaux intitulé « L'âme du Morvan ». Et en fait, il va solliciter la population locale pour faire des dons et créer un établissement dédié à l'histoire de Saulieu et qui présente aussi l'identité du Morvan. Et donc, en fait, la collection comprend des objets qui rappellent l'histoire de la ville et l'histoire de ces Délossiens célèbres, comme par exemple François Pompon et aussi Bernard Loiseau.
Ah, ah bon ? Bernard aussi ? Ah d'accord. Oui, c'est une des stars.
Autour de la gastronomie, Saulieu, c'est une ville étape importante.
C'est vrai.
Qui a vraiment une réputation mondiale au niveau de la gastronomie. Et donc, on évoque aussi, on a une salle entière dédiée à cette thématique.
Mais quelle bonne idée. C'est vrai que Saulieu, c'était l'étape indispensable quand on passait du nord au sud. L'ours polaire, là, dont on a parlé, nos auditeurs ont sûrement dû croiser cette sculpture-là, parce qu'on la voit un peu partout. Est-ce qu'on peut la voir à Saulieu ?
Alors, elle est visible à Saulieu, en face de l'établissement Bernard Loiseau,
oui,
en fait.
Oui, oui.
Mais on peut aussi la voir, cette œuvre, au musée d'Orsay, comme vous l'avez dit.
Ah,
et
oui,
puis, on peut la voir aussi au Metropolitan Museum de New York.
Ah, s'il vous plaît.
Qu'il a acquis très tôt, hein, en fait. C'est un musée qui a acquis dès 1930 cette œuvre. Parce qu'en fait, du vivant de François Pompon, pendant des années, il a réalisé ses sculptures, espérant que les collections publiques à ses œuvres.
Ouais.
Et en fait, il a fallu attendre effectivement la célébrité avec la création de l'Ours Blanc et sa présentation surtout en 1922 au Salon d'Automne à Paris.
Ah, c'est ça.
Parce que finalement...
On s'est dit, tiens, il y a des choses intéressantes chez ce monsieur Pompon, quoi.
Tout à fait. Pour qu'il soit reconnu, apprécié.
Et, oui.
Et du coup, les premières œuvres vont rentrer dans les collections publiques, dans les années 20-30.
Mais c'est incroyable, le destin de cet homme-là, parce qu'il était le numéro 2 chez Rodin. Au fond, c'était le patron de l'atelier, mais tout d'un coup, il devient célèbre. Est-ce qu'il a fait autre chose que des animaux ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant au musée de Saulieu, c'est qu'on peut voir que non seulement il avait un talent au niveau de l'art animalier, c'est ce qu'il a fait connaître, mais on conserve toutes les œuvres de jeunesse, enfin une grande partie des œuvres de jeunesse de François Pompon.
Ouais.
Et on se rend compte que quand il était jeune, il est très très intéressé par la représentation de la figure humaine. Donc il a commencé par portraiturer les personnes de son entourage, de sa famille. Mmh. Sa sœur Antoinette, son frère jumeau Hector, mais aussi ses parents, Alban Pompon, sa mère, sa femme. Et il a aussi portraituré finalement des amis ou des personnalités célèbres. Alors on a par exemple le truculent curé de Saulieu en terre cuite. On a aussi le portrait de Mathieu Bisouard-Bert, qui était un sénateur de la Côte d'Or, et pour lequel, en 1900, François Pompon réalise son buste pour mettre au cimetière sur sa tombe. Mais il réalise aussi le portrait du sculpteur René-Paul de Saint-Marceau, pour lequel il est également praticien, puisque en fait, François Pompon, c'est un artiste, mais c'est aussi avant tout un artisan. Il a commencé sa carrière comme tailleur de pierre.
Ah bon ?
Puis comme praticien chez Rodin.
Quand vous dites praticien, ça veut dire qu'il faisait tout, quoi. Il aidait à la sculpture du maître, bien sûr, mais il sculptait lui-même. Mais on m'a dit qu'il patinait. Enfin, il était sur toute l'opération qui consiste à faire une sculpture, c'est ça ? Il savait tout faire.
En tant que bon artisan, il pouvait réaliser une sculpture de A à Z.
Ah,
et
voilà.
C'est en fait ça qui l'intéressait le plus, c'est-à-dire d'être au plus proche de la sculpture et de maîtriser l'ensemble de la réalisation
D'accord.
de la sculpture.
Pour les 100 ans de l'Ours Blanc, vous proposez quelque chose de particulier ?
On a effectivement de nombreux événements et une très belle programmation au musée de Saulieu. Donc l'année dernière, on a fêté les 100 ans de la création de l'Ours Pompon. Et cette année, on fête les 100 ans de la présentation de l'ours François Pompon au Salon d'automne en 1922. À Paris.
D'accord.
Donc du coup, on a une très très belle programmation. Du 1er au 30 avril, on présente une exposition des sculpteurs animaliers lauréats du prix Pompon.
Ah, il y a un prix Pompon du coup.
Chaque année, lors de grands salons nationaux ou internationaux, le musée François Pompon, en partenariat avec l'association François Pompon, décerne un prix à des sculpteurs. Donc là, on aura par exemple Olivier Bertrand qui a eu le prix Pompon en 2021. Mais on a aussi des artistes comme Michel Audiard qui a eu le prix Pompon en 2018 ou Michel Bassampierre qui l'a eu en 2017.
C'est très bien. Vous avez très bien fait votre travail, Laurence, parce que c'est la directrice du musée. Alors, c'est normal, elle cite tous les gars qui ont eu un prix. Hein. Fait son boulot, Laurence. Hein. Merci beaucoup.
Alors, avec l'aide, bien sûr, de la municipalité
bien
de la
sûr.
Ville de Saulieu, qui est très motivée pour réaliser
des manifestations culturelles. Est-ce que vous avez cité le nom du maire ?
Alors, Martine Mazzilli, avec qui je travaille.
Et, oui.
Et aussi Marie-Claude Auvernet, qui est l'adjointe à la culture.
Bien sûr.
Et puis, bien sûr, je travaille aussi avec Cécile Dico, que tout le monde connaît, qui travaille depuis longtemps au musée.
D'accord. Est-ce qu'il y a une rue Pompon à ce lieu ? Faites une rue Pompon, s'il vous plaît.
Oui, ça serait une bonne idée. En tout cas, la ville de Saulieu a commandé déjà une pièce de théâtre qui sera jouée du 1er au 8 mai, qui s'appelle Pompon, l'homme à l'ours, qui a été écrite et mise en scène par Jérôme Robard. Et là, on plonge par le spectacle vivant dans l'intimité du maître François Pompon.
Voilà,
un très grand moment. D'ailleurs, on peut refaire une émission à ce sujet.
Mais bien sûr, je pense qu'on va...
Pompon.
Oui, je pense qu'on va aller... Ça rime en plus. On fait des visions. Pompon, émission. Bravo Laurence. Merci.
Bah oui, c'est une bonne idée. Le 14 mai. Alors attendez, j'ai pas fini. Le 14 mai à 21h30, on a aussi un spectacle qui s'appelle Gueule d'ours par la compagnie Remue-Ménage. Et puis, dans l'hiver, on va s'intéresser à la gastronomie du 1er octobre au 31 décembre.
On a de l'ours.
Très belle. Exposition de photographie alliant gastronomie et littérature avec l'artiste Charles Roux, qui est un photographe qui s'intéresse au festin littéraire et qui nous invite au repas célèbre de la littérature française, nationale et internationale.
Voilà, tout a été dit, merci beaucoup. Non, mais on parle beaucoup aussi de gastronomie dans ce musée dédié en partie aussi à l'archéologie et à Bernard Loiseau, évidemment. Vous savez ce qu'il disait, Bernard, qui était un homme remarquable, il disait, tu sais, j'ai mes deux bacs, moi. Il dit, ah bon, c'est bien, t'as deux bacs. Oui, j'ai le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. ça, c'était la blague à Bernard. Et je salue sa famille qui maintenant s'occupe de cet établissement. Merci beaucoup, Laurence, de cette visite. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Vous aussi, merci beaucoup, au revoir.
Monsieur Gavitz, vous avez des choses à dire sur des dates à Saulieu
Je crois que là, on sait à peu près tout.
Alors moi, je vous signale le jardin Pompon, le boulevard Pompon, le garage
on va
Pompon,
passer,
la
droguerie
Pompon.
On va passer notre vie au musée Pompon
et tiens,
de Saulieu.
Puisque vous êtes à Saulieu, allez faire un tour dans ce magnifique établissement aussi chez Bernard Loiseau. On fait quoi pour visiter le musée ? C'est pas très compliqué.
Alors, on va, à partir du mois de mars, c'est ouvert le lundi de 10h à 12h30 et de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, c'est précis, le reste de la semaine. Ça coûte 3€ par adulte, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et gratuit également tous les dimanches pour tout le monde. Et vous l'avez dit, William, pour manger, on va aller à l'Oiseau des Sens.
Alors, il y en a deux, il y a le gastronomique et puis il y a l'Oiseau des Sens, c'est le bistrot.
C'est exactement ça. Et là, en ce moment, on a une canette de Barbarie glacée au miel. Attendez, ma respiration, ça me fait envie. Il y a aussi le petit gratin de pommes de terre avec pour 32€. Et sinon, il y a le menu du marché à partir de 28€. 28€ pour manger chez Bernard
Loiseau.
C'est
Loiseau, c'est vous dire.
Exactement, par un de ses chefs. Avec filet de truite, purée de brocoli et pommes de terre rate et sauce au vin blanc. Tout ça pour 28€ quand même, William.
Oui, mais je vous signale qu'à cette heure-ci, vous sortez de table, Gavi.
Ah,
vous
n'avez
pas remettre ça pour
si,
le goûter.
Moi j'ai
pour
faim
le goûter.
Tout le temps, si, pour le goûter, c'est pas mal.
Pour dormir, alors il y a quelques chambres aussi chez l'Oiseau. Sinon,
chez l'Oiseau. Sinon, j'ai trouvé une adresse que j'aime beaucoup, qui est complètement folle. Ça s'appelle le domaine de la Pierre Ronde. C'est pas très loin, c'est à 6 km de ce lieu. On est à Saint-Martin-de-la-Mer, dans un domaine forestier de 25 hectares. Et alors là, attention, William, vous allez pouvoir dormir dans des maisons construites sous terre, façon hobbit, comme dans Le Seigneur des Anneaux.
Ah ouais.
C'est complètement fou. On est comme ça, dans la terre, quasiment presque. Alors, c'est tout aménagé pour dormir confortablement, à partir de 90€ pour deux personnes. Et nous mettons bien sûr toutes les informations sur Europe 1. Pour dormir au domaine de la Pierre Ronde.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Chaque samedi dans cette émission sur Europe 1, on vous propose donc de découvrir des ateliers, des artisans qui fabriquent des pièces uniques en France et qui, par leur création, appartiennent à notre culture. Et ces sites-là méritent d'être visités. Alors aujourd'hui, avec Gavin Clémenté-Ruiz, chasseur de sites émérite, s'il vous plaît, puisqu'il travaille au Guide du Routard, nous vous emmenons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir. Alors, c'est une technique assez particulière qui méritera des explications. D'abord, ça se situe où ?
Alors, je vous emmène au cœur de la Bresse, William, et on va aller dans le département de l'Ain, plus précisément dans la capitale, qui est Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, on dit. C'est là que se situe la maison.
On dit Bourg-en-Bresse ou on dit Bourg-en-Bresse ?
On dit Bourg. On dit Bourg de
vous
façon locale.
D'accord.
Ouais, on va, bon,
non, mais je fais attention. Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse. C'est là que se situe la maison Jean-Voine, William. Cette maison, elle fabrique des émaux depuis plusieurs générations, des émaux bressants.
Des émaux bressants, qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah en fait, c'est une technique unique qui est uniquement réalisée en Bresse.
Il faut que je ferme la fenêtre parce qu'on entend les pompiers quand ils passent.
Ah, fermez.
Bougez pas, je ferme la fenêtre. Voilà. Alors, voilà. Les émaux bressants, donc.
C'est une technique unique à mi-chemin entre l'orfèvrerie et la bijouterie.
D'accord.
Si je devais résumer.
Ça existe depuis longtemps ?
On retrouve des émaux bressants sur les épées au XIVe siècle des chevaliers, déjà, vous imaginez. Des nobles. Des nobles, tout simplement.
Chevaliers,
pourquoi pas. Mais ces émaux, ils ont surtout connu une notoriété à partir du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne sait pas trop pourquoi tout est parti de Bourg en Bresse, mais une chose est sûre, c'est que sur place, seule la maison Jean-Voine, aujourd'hui, est dépositaire de ce savoir-faire de fabrication des émaux bressants.
Alors, il faut me dire, en gros, à quoi ça peut ressembler, si on peut schématiser.
Alors, un émail bressant, si je devais résumer, c'est une plaque d'or
ou une plaque d'argent. Ronde ou rectangulaire ?
Alors, vous prenez la forme que vous voulez, William.
Bon, d'accord.
Mais rond, ça peut être...
C'est une plaque d'or, c'est pas très épais, finalement.
Non, c'est pas très épais. Ça peut être de l'argent aussi.
Aussi, d'accord.
Qui sert de support, le support. Et dessus, on rajoute, il y a l'émail décoré avec des petites feuilles de métal. C'est ça qui va donner le côté, un peu bijou, j'ai envie de dire, un peu précieux. De cette création. C'est très élégant, c'est très graphique aussi parce qu'on peut faire plusieurs, il y a plusieurs variations possibles, des fleurs, des...
Aujourd'hui on trouve plutôt ça sur des bijoux, non?
Oui, c'est ça. C'est devenu l'occasion de se faire un bel objet. Il y a eu de très belles pièces qui ont été créées autrefois pour les expositions universelles, par exemple. Il y a eu aussi, c'était une technique qui était utilisée pour les familles royales aussi, pour de petits objets précieux.
Ah bon, ils avaient des clients, c'était les familles régnantes d'Europe.
Le Shah d'Iran, par exemple. Le Shah d'Iran a eu... Ouais, en Europe aussi, hein, bien sûr, mais le Shah d'Iran a eu quelques très beaux objets réalisés avec des émaux bressants. On retrouve quelques pièces aussi, si vous allez à Londres, au Victoria and Albert Museum, il y a de très belles pièces en émaux bressants, d'émaux bressants tout simplement. Et puis, il y a eu aussi un usage fait dans le domaine religieux. Ça servait pour les croix, elles étaient recouvertes notamment de ces fameux émaux. Donc ça servait
On en porte moins aujourd'hui. Non,
oui, les bijoux fantaisie moins chers ont réduit la fabrication d'émaux bressants, mais ça existe encore aujourd'hui. On peut s'offrir un petit collier, on peut s'offrir des boucles d'oreilles réalisées avec des émaux bressants.
D'accord. Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec David Jean-Voine de la maison du même nom à Bourg-en-Bresse. Bonjour David.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Alors, bonjour. Vous êtes le dernier bijoutier émailleur bressant, je dis bien, je ne me suis pas trompé ?
Non, oui, c'est bien ça, voilà, le dernier fabricant des mots bressants, voilà. On a repris le dernier atelier qui existait sur Bourg-en-Bresse, donc c'est un art ancien mais qui est bien vivant, voilà. On est d'ailleurs classé entreprise du patrimoine vivant, voilà.
Et c'est ce qui nous avait fait penser qu'il fallait absolument aller chez vous. Et là je m'adresse aux professionnels maintenant pour que vous m'expliquiez ce qu'il y a de si particulier dans cet émail bressant.
Alors, ce qui caractérise nos émaux bressants, voilà, c'est le décor qu'on retrouve sur l'émail, sur la couleur. Voilà, c'est un décor qui est apposé à la main, qui est toujours en or 24 carats, et on appelle ce décor des paillons d'or.
Des paillons d'or, d'accord. Mais à qui vous vendez ça aujourd'hui ? Parce que Shah d'Iran, lui, il a eu un destin tragique, il est terminé. Donc, il y a des cours, je ne sais pas, européennes, il y a des riches acheteurs. C'est parce que c'est unique ce que vous faites. Il n'y a pas deux émailleurs bressants en France.
Oui, c'est ça. On est vraiment le seul atelier à fabriquer ces émaux bressants. On peut retrouver d'autres émaux en France, comme les émaux de Limoges, les émaux de Longwy, mais c'est une autre technique de fabrication.
ce qui concerne les Émaux-Bressans, on est vraiment le dernier atelier. Donc aujourd'hui, nos clients, bon, on a une clientèle locale, bien sûr. Mmh. Et puis on travaille aussi avec une clientèle touristique, parce qu'en général, quand ces clients découvrent ce bijou, voilà, qui apporte beaucoup de couleurs, mmh, un savoir-faire ancien, bien souvent, ils en tombent amoureux.
Mais alors, on peut fabriquer toutes sortes de bijoux avec ces émaux. Et ce ne sont pas forcément... Parce qu'à travers ce que j'ai dit, on pourrait penser que c'est toujours très cher, étant donné que ça a été acheté par le Shah d'Iran ou je ne sais quelle cour royale. Mais non, mais on peut faire des bijoux fantaisie, des bijoux à la portée de toutes les bourses, je suppose.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'à une époque, ils ont eu des clients prestigieux. Bon, aujourd'hui, on démarre avec un prix public à 40 euros. Vous voyez, donc c'est assez abordable.
D'accord.
Et puis, pour avoir un émail avec une taille, on va dire, moyenne, il faut compter un budget entre 100 et 300 euros. Mmh. Après, bien sûr, voilà, on peut toujours associer l'or, les pierres précieuses pour avoir des budgets plus importants. Mais voilà, un petit peu la gamme de prix.
Ça vous arrive de travailler pour des grandes maisons de la Place Vendôme à Paris ou pas du tout?
Non, c'est vraiment, on fait une production locale.
D'accord.
Oui, voilà, on n'a pas de sous-traitance pour de grandes marques.
Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, si l'on veut voir votre travail et se procurer des pièces, il faut aller à Bourg-en-Bresse, parce que moi, là, j'ai des photos, je vois un pendentif à 40 euros, très, très, très coloré, c'est des rouges, extrêmement rouges, ou bleus, ou jaunes, c'est incroyable qu'on arrive à faire des couleurs aussi pures. Je t'ai frappé
de ça. Oui, c'est ça. On a des émaux translucides, donc qui laissent un petit peu traverser la lumière, ou au contraire des émaux opaques. On a une palette de couleurs, à peu près de 18 couleurs, et on cesse d'enrichir cette palette de couleurs, justement, pour faire évoluer les émaux, pour qu'ils continuent aussi à plaire avec des nouvelles formes.
Ouais.
Il faut que les jeunes aussi s'intéressent à...
Oui, il faut moderniser votre fabrication, bien sûr.
C'est ça, voilà. On a une tradition, mais on souhaite aussi qu'elle perdure, donc c'est important d'innover.
Si on vient dans votre atelier, est-ce qu'on peut assister à la fabrication? Est-ce qu'il y a une démonstration pour les visiteurs?
Oui, alors quand il y a des petits groupes sur réservation, on va dire, on peut mettre en place un atelier de démonstration. Donc là, on voit vraiment concrètement la personne travailler avec le four, avec les étapes, et puis un échange en direct avec les touristes. Et puis après, s'ils viennent qu'à une ou deux personnes, à ce moment-là, ils peuvent visionner un petit film au sein du magasin qui reprend toutes les étapes de fabrication. Et puis on est là pour argumenter s'ils ont des questions.
Bon, ben très bien, on en sait un peu plus maintenant grâce à vous, David. David Janvoine de la maison qui porte son nom, et ça fait des générations. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Merci beaucoup, merci William, au revoir.
Au revoir. Alors une adresse, monsieur Gavid, s'il vous plaît, si on reste sur place et on déjeune à Bourg-en-Bresse.
Eh ben, je ne pouvais pas ne pas vous conseiller Le Bressan, tout simplement. C'est une adresse qui régale depuis plus de 30 ans les habitants de Bourg-en-Bresse, les Burgiens et les Burgiennes.
J'ai un peu
de gentilet, je sais que vous aimez ça. On va manger au Bressan les fameuses cuisses de grenouille la Bresse. Et ouais, dans un décor tout ce qui est plus classique, plus rustique. Menu 16 euros, 36 euros, la fourchette, ça va, c'est correct. Mmh. Et puis, quand on va à Bourg-en-Bresse, on ne peut pas ne pas aller faire une bise aussi à Lydie Zanini.
Qui c'est Lydie Zanini?
Lydie Zanini de la librairie du théâtre, un sacré personnage.
Très bien, merci beaucoup jeune homme. Alors, maintenant, il est temps d'entendre Julien Clerc dans la France de mon enfance. C'est comme ça qu'on appelle cette séquence chaque semaine. Alors, vous savez que Julien Clerc est fier de ses origines antillaises et son enfance a évidemment baigné dans la culture créole. Alors ça, c'est grâce à sa maman et à son grand-père. Il a raconté tout cela à Daniel Moreau et il va vous dire comment il a découvert en fait la Guadeloupe. Figurez-vous qu'on y est un peu pour quelque chose ici à Europe 1.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Alors vous sortez un 27e album qui s'appelle Les Jours Heureux. Mmh. Est-ce que Les Jours Heureux c'était votre enfance?
Les Jours Heureux c'était pas complètement mon enfance. C'était pas que heureux, on va dire. À cause du divorce des parents.
En tout cas, ces chansons que vous reprenez des grands noms comme Piaf, Barbara.
Là, ça l'était parce que ils étaient tous adorés par ma mère, qui était une grande amatrice de chansons françaises. Donc, je découvrais tous ces disques-là quand j'allais chez elle. J'allais d'un foyer à l'autre. Donc, Là, ça par contre, ça a été une découverte quand même, parce que ça a fait partie de ma découverte de la musique.
Alors, votre maman et votre grand-père, que vous aimiez beaucoup, vous ont apporté cette culture antillaise. Mm-hmm. Mais alors, bizarrement, vous avez découvert la Guadeloupe assez tard. Vous pouvez
me
raconter ?
Oui, parce que mon grand-père n'y est jamais retourné. Ma mère n'y a jamais été. Elle est venue avec moi. Hein, c'est moi qui l'ai emmenée là-bas. Mais la première fois où j'y suis allé, c'est grâce à Salut les copains, qui m'a payé le voyage pour faire un reportage photographique. Julien Clerc, retour vers les racines, etc.
Et vous vous souvenez de l'émotion ? C'était grâce à Europe 1, donc vous vous souvenez ?
Écoutez, l'émotion n'a pas été... Vous savez, je suis né dans les pays tempérés. Je suis quelqu'un des pays tempérés. C'était la première... Je n'avais pas beaucoup voyagé. Je n'avais pas quitté la France, en tout cas l'Europe, avant... d'aller là-bas. Donc il y a eu cette... il a fallu du temps pour que je comprenne que mon corps aimait bien les climats tropicaux. Dans un premier temps, vous savez, quand vous descendez de l'avion, ça vous tombe dessus. Donc il a fallu que je m'habitue à ça. Et en fait, j'étais un peu déçu par mon premier voyage. Il a fallu que j'y retourne après pour commencer à aimer... l'endroit et les gens. Non, ce que j'aimais le plus, c'était la cuisine, parce que ma mère cuisinait très bien, mais mon grand-père aussi cuisinait très bien. Et dans ma Madeleine de Proust, on va dire qu'il y a le courbouillon de poisson, le courbouillon de poisson guadeloupéen, là. Et à chaque fois que je retourne là-bas, je demande à mon petit cousin de m'emmener dans un endroit, mais vraiment où on mange du vrai courbouillon de poisson, pas un truc touristique, quoi.
Alors, si on fait quand même les touristes et qu'on va en Guadeloupe, qu'est-ce qu'il faut vraiment voir ? Qu'est-ce qui est incontournable pour
Écoutez,
vous
je vais vous dire un endroit où je ne suis pas allé, je vais vous dire. Parce que dans le dernier album, Marc Lavoine m'a fait cadeau d'un texte qui s'appelle « Ma petite terre », qui est une chanson sur la Guadeloupe. Et dans le refrain, il y a « Calme, calme, j'irai me retrouver à Notre-Dame des Larmes ». Et alors j'ai dit à Marc, mais c'est quoi ce Notre-Dame des Larmes ? Alors il a éclaté de rire, parce qu'il m'a dit, pour un Guadeloupéen, toi, t'es... Et en fait, c'est un endroit de la Guadeloupe, paraît-il, c'est un truc naturel, enfin c'est une cascade, en fait. Ça s'appelle Notre-Dame des Larmes, que je trouve un titre ravissant. Alors j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'aller voir Notre-Dame des Larmes.
Voilà, alors si vous allez avant Julien Clerc en Guadeloupe, ne ratez pas Notre-Dame des Larmes. Voilà. Et surtout, donc, ne ratez pas cet album, c'est une jolie idée, ce sont des reprises magnifiques. Ouais. Et vous partez en France donc avec des titres des jours heureux, ce dernier
oui,
album.
Oui, dans
et
l'album, puis, il y aura une petite partie du dernier album, donc sorti il y a un an, La Terrien. Une petite partie des jours heureux et évidemment, beaucoup de répertoire.
Ne ratez pas Julien Clerc et merci beaucoup Julien.
Merci, merci.
Merci Julien, merci Daniel. Alors Julien Clerc, vous l'avez compris, vient de commencer sa tournée, ça s'appelle Les Jours Heureux, avec un hommage, alors ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, je suppose, aux artistes qui l'ont inspiré, si je vous cite Gilbert Bécaud, c'est dommage. Et il a bien fait, lui, de le réhabiliter un peu, parce que c'est un immense chanteur. Alors Edith Piaf, évidemment, Charles Trenet, Charles Aznavour. Alors, il va forcément passer près de chez vous avec sa tournée.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Alors la balade que l'on vous propose comme chaque samedi sur Europe 1 en fin d'émission, eh ben là c'est une balade en plein air comme d'habitude certes, mais là c'est un véritable circuit pour marcheurs infatigables. Avec Gavin Clément-Terruis, nous proposons une sorte... Alors c'est comme un circuit quoi, dans la région de Centre-Val-de-Loire et où précisément, monsieur Gavin, s'il vous plaît.
Eh bien, ça se trouve dans l'Indre, William. C'est près de Valençay, à mi-chemin entre Tours et Bourges.
Valençay, voilà, ça me dit quelque chose, Valençay. Il y a un château, non ?
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un des plus beaux exemples de château Renaissance.
Ah, Renaissance, c'est ça.
Ouais, c'est Napoléon qui avait donné à Talleyrand ce château pour recevoir les grands de ce monde. Ils avaient fait plein de travaux. Et Talleyrand, le mondain, en avait largement usé.
Talleyrand, c'est qui était dans un bas de soie. Et il était effectivement, vous avez raison de le signaler, très très mondain. Mais c'est aussi la région natale, alors voilà, nous y sommes, d'un dessinateur auquel on va rendre hommage aujourd'hui.
Exactement. Si je vous dis, William, la vache qui rit.
Oh bah oui. C'est les goûters de mon enfance.
C'est cette vache rouge sur les boîtes rondes de fromage. Eh bien, ça a été réalisé par un dessinateur qui a dessiné cette vache qui s'appelle Benjamin Rabier. Mm-hmm. Benjamin Rabier, il est né en 1864 et il est mort à Faverolles en Berry en 1939, tout près de Valençay, justement.
Oui, il faut signaler que ce dessinateur fait également beaucoup de livres pour enfants. Hein. Moi,
je
me souviens du canard qui s'appelait Gédéon.
Oui, ouais. C'est lui aussi qui a bien marché, qui a fait sa renommée. Et aujourd'hui, le pays de Valençay et toute sa région, les petites villes du coin, ont souhaité lui rendre hommage. Et je trouve ça super comme idée. Et ils ont dédié un sentier découverte sur les traces des paysages et des routes qu'il aimait. Je trouve ça super comme idée. Non, c'est un circuit découverte à travers 10 communes.
Oui, mais c'est un bon moyen pour faire connaître une région. Quoi.
Carrément, c'est vraiment bien. On allie la culture et la nature et l'effort. 10 communes sont traversées à travers cet itinéraire découverte, en quelque sorte. Et ça fait quand même 90 km, hein, c'est pas rien. Ouais, alors, je vous rassure, 90 km, on ne fait pas tout d'un coup. On peut faire des boucles de chaque petit village qui sont traversés, ça, des boucles de 5 à 10 km. On fait ce qu'on veut quand même, hein, n'exagérons rien. Et on part des villages que l'on croise, et comme ça, on va pouvoir découvrir l'univers de Benjamin Rabier. Ouais,
en fait, ce qu'on propose, là, c'est un, d'après ce que vous me dites, c'est un sentier de randonnée, mais un peu artistique aussi, quoi.
C'est exactement ça, William.
Bon, alors, nous sommes en ligne avec Monsieur le maire pour en savoir un petit peu plus. Monsieur le maire, c'est William Guimpier, le maire de Villantrois, Faverolles en Berry. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour, messieurs.
Alors, Monsieur le maire, d'abord, vous avez un bien joli prénom.
merci.
vous savez, nous sommes une minorité agissante, hein, vous, moi et quelques autres. Hein. Mais il voilà. y a aussi un certain Shakespeare qui a fait une petite carrière, mais bon.
Qui ça
Alors, expliquez-moi, mon cher William, Benjamin Rabier, il a vécu sur vos terres, là?
Absolument. Benjamin Rabier, si vous voulez, il a vécu sur 3 communes de notre territoire. Tout d'abord, évidemment, ses grands-parents avaient leur maison à Langeais. Et puis, lui-même a vécu de nombreuses années à Lille, dans sa maison familiale. Mm-hmm. Et puis, il est décédé finalement chez son jeune à Faverolles, qui avait une belle propriété. Et puis, il est enterré dans notre cimetière de Faverolles-en-Berry. Voilà.
Mais dites-moi, ça permet de remettre au goût du jour un dessinateur finalement, qui est peut-être pas extrêmement connu de la jeune génération.
Tout à fait, c'est un peu vrai, mais voilà. Effectivement, comment je vais dire, Hergé s'est inspiré, par exemple, d'un de ses albums de 1894 pour créer le personnage de Tintin Lutin. Voilà.
Ah, d'accord.
Et puis Walt Disney a utilisé sa technique de dessin, et surtout, en particulier pour la baleine, qui a avalé Pinocchio, voilà.
Ah oui, d'accord.
Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, il a quand même créé plus de 500 publicités, dont la vache qui rit, qui est évidemment la plus connue de ses illustrations, hein. Ça c'est clair, voilà.
Dis-moi, mais est-ce que ce Benjamin Rabier était célèbre à son époque comme il le méritait?
Il a connu une époque, bien sûr, où il était célèbre. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a la guerre qui est arrivée, et puis, mais il y a eu, enfin je veux dire, l'ensemble, il a été connu, après un peu moins, après il y a des gens qui se sont quand même inspirés de lui, et ça y a redonné, comment je dirais ça comme ça, ça lui a redonné de l'importance, et si je peux m'exprimer comme ça, par rapport à Hergé, par rapport à Walt Disney, voilà, il n'était plus là, mais n'empêche que, voilà, hein, c'est...
Mais à propos de Benjamin et de ce sentier, tout le monde peut le pratiquer parce qu'on a dit qu'il y a 90 km, comme l'a dit Gavin, il y a des petits sentiers de randonnée, quoi, voilà.
Oui, alors je vais vous expliquer ça. Honnêtement, c'est un sentier qui est facile, hein, et pour moi, il est à la portée de tout le monde. Hein.
Ah, voilà, bon.
Alors moi je dis, et puis on a quand même plusieurs possibilités, c'est-à-dire que on peut le faire à pied, on peut le faire à cheval, en vélo même, oui, tout à fait.
D'accord.
Et on a une petite, un petit supplément même, c'est qu'il est connecté au train touristique du Bois-Berry, dans les périodes de vacances, de tout ça, voilà, c'est un petit plus.
D'accord.
Évidemment, on peut le faire dans les deux sens, sans problème. Il s'agit d'une boucle, en fait. Il n'y a pas de... Le sentier, alors là, évidemment, il est vallonné, avec vraiment des beaux paysages variés. Alors, on peut faire, si vous voulez, en 5 ou 6 kilomètres, le paysage peut complètement changer. Bon. Et puis, il y a vraiment des points de vue intéressants, magnifiques.
Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est ça, je voulais savoir. C'est quand on se balade, qu'est-ce qu'on voit ? Je suppose qu'il y a de la forêt, mais il y a d'autres choses.
Le sentier, il est balisé et aménagé. Alors, ça veut dire que ceux qui l'empruntent, ils découvrent une histoire. Alors, Gertrude, que vous connaissez sans doute, ou si là vous
la
connaissez
pas. Oui.
C'est Lois qu'a créé Benjamin Rabier. Mmh. C'est elle qui fait le parcours. C'est le parcours du sentier, voilà. Et puis, en cours de route, elle rencontre ses copains, les animaux, elle discute avec eux.
Voilà.
Alors, sur l'évolution des paysages, du patrimoine, des mœurs d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, bon. Parce que en fait, c'est une histoire, tout ça.
Hein. Très bien.
Et puis, il y a une partie aussi informative et une autre ludique, puisque nous avons ponctué le sentier d'une chasse au trésor. Voilà,
c'est bien aussi.
Voilà. Et ben voilà, moi ce que je dis, c'est que chacun y trouvera son intérêt, les petits, les grands, voilà, tous.
Parfait. Et ben, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, monsieur le maire, cher William Guimpier. Je vous souhaite un bon après-midi.
Je vois qu'on est un peu limité par le temps, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Vous remercier, monsieur l'énergie.
Oui.
Parce que je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité de votre émission, parce que ça permet quand même de découvrir des territoires souvent éloignés, mais où il se passe quand même pas mal de choses.
Mais oui.
Et à découvrir. Et vraiment, bravo. Et puis j'irai même un peu plus loin, si vous le permettez.
Oui.
Si vous passez en Berry.
Oui.
Eh ben franchement, ça serait vraiment un véritable plaisir de vous inviter et puis à partager un peu de notre pays de Valençay. Voilà.
Écoutez, je ne connais pas, je viendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je signale quand même que ce n'est pas parce qu'il s'appelle William, monsieur le maire, et que nous sommes des parents. Il a dit ça.
Ah non.
Il a dit ça spontanément. Merci beaucoup, William. Merci, monsieur le maire. Je vous souhaite un bon après-midi et donc à bientôt.
Eh bien, à bientôt. Merci.
Merci à vous. Au revoir. Bon, Gavit, vous viendrez avec moi. On ira faire un tour là-bas. Malgré que vous ne vous appeliez pas William, mais je ne vous en veux pas. Gavit, c'est pas mal. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut déjeuner sur place ?
Eh bien, pour l'association des Williams du Valençay, je vous propose d'aller manger, de vous retrouver même à la pâtisserie Castel Praliné. C'est à Valençay même, c'est là où, si vous avez envie d'une petite gourmandise pour le goûter, dans un salon de thé, il y a des guimauves, des macarons, des bonbons pralinés, bien sûr. C'est à Valençay et ça s'appelle Castel Praliné. Et sinon, autre chose. Là, vous allez aller au GAEC de Ramonneau chez Denis et Florence Duclou. C'est quoi ? Eh bien, c'est une ferme et on va directement acheter son fromage ferme chez Denis et Florence Duclou. C'est exactement dans les environs de Valençay.
Juste pour terminer, rappeler ce que nous avons visité et proposé à nos amis aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous avons découvert les drôles de rochers du Cidobre, William. C'est une région du Tarn, des rochers de plusieurs tonnes.
Oui.
On est allé aussi à Saulieu, en Côte d'Or, en Bourgogne. Là, nous avons fait étape au musée du sculpteur Pompon, connu notamment pour ses sculptures géantes d'animaux cette fois. Nous sommes allés aussi à Bourg-en-Bresse pour découvrir ce savoir-faire des émaux bressants. Et enfin, nous venons de marcher sur les traces de Benjamin Rabier, le fameux dessinateur de la vache qui rit. Et ça, c'était dans l'Indre.
Allez. Rapidement, une manifestation pour parler d'une région de France.
Alors, pour fêter l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, se déroulera un événement inédit, William. Ça se passera sur les Champs-Élysées le 6 mars prochain. Notez-le sur votre tablette. Et ça va être pour fêter le pastoralisme et les transhumances qui seront bientôt classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les folies béarnaises. Ouais, 2022 brebis, bergers, vaches, chanteurs, danseurs qui vont défiler le 6 mars de 14h à 16h sur les Champs-Élysées.
Imaginez. Bonne idée, ça.
Et c'est sympa, non ? Pour fêter notamment le Salon de l'Agriculture. C'est la grande transhumance avec de nombreuses animations. Il va y avoir des chants polyphoniques. Là, je vous inscris à l'activité, William.
Ouais,
ça, c'est gratuit.
C'est un
beau spectacle en perspective.
Top, avec Anne Hidalgo en majorette devant. Ouais. Ça va être super. Je vais y être, moi. Thank you. L'émission est à présent terminée. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavins, donc Clément Pérez et Morgane Biquillet. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites, toujours en France, dans 4 régions différentes. Bon après-midi sur Europe 1.